Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous avons une nouvelle série intitulée « La sérénité du cœur, de l'âme et de l'esprit ». Chers amis, voici enfin les chemins qui mènent à la sérénité. Le thème de l'anxiété était déjà présent dans la Bible. C'est pourquoi j'aimerais, dans un premier temps, aborder les chemins bibliques qui conduisent à la sérénité. Le marcheur infatigable, le scélérat qui ne trouve pas la paix, celui qui erre sans repos, constituent des images bibliques qui restent pertinentes aujourd'hui. La promesse biblique selon laquelle Dieu lui-même procurera à l'homme le repos n'est pas un vain mot. Je me limiterai donc à deux situations bibliques, l'exhortation de Jésus à trouver la paix auprès de lui et la description du sabbat dans la lettre aux Hébreux. Je m'appuierai aussi sur les recommandations des premiers chrétiens qui indiquent comment le calme peut être trouvé en Dieu. Pour les chrétiens qui peuplèrent le désert d'Égypte dès le IIIe siècle, le monde de l'Antiquité tardive était trop bruyant et trop superficiel. Ils cherchaient donc une manière de prier sans distraction et de participer à la sérénité du sabbat divin. Être totalement présent en Dieu, ne faire plus que un avec lui, ne pas être absorbé par des pensées ou des émotions, tel est donc le but du chemin. D'après Martin Heidegger, être au monde signifie se soucier de soi et de son existence. C'est d'être inquiet pour soi et s'occuper de soi. Le souci rend donc l'homme anxieux et ne le laisse pas en paix. L'homme est donc essentiellement quelqu'un qui se soucie. Son existence entière est déterminée par le souci qu'il a de lui-même. Tant qu'il vit, il a partie liée avec le souci. Ce n'est que dans la mort que le souci cesse la domination qu'il exerce sur lui. Jésus a une autre idée de l'homme. L'homme n'est pas d'abord uniquement quelqu'un qui se soucie, mais quelqu'un qui peut aussi faire confiance. L'homme, et puis quand je dis l'homme, vous avez compris, ça veut dire la femme avec, n'est-ce pas ? Bibliquement, l'homme veut dire également « et la femme comprise ». Donc, il se sait dans la main du Père, l'homme ou la femme, les deux, ils se savent dans la main du Père, qui prend soin d'eux. Dans le sermon sur la montagne, Jésus invite ses disciples à ne pas se faire de soucis. Il dit, voilà pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi que vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que le vêtement? Qui d'entre vous d'ailleurs peut, en s'en inquiétant, ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie? Saint Matthieu, chapitre 6, verset 25 jusqu'au verset 27. Chers amis, aucun autre texte n'a suscité autant de critiques que cette parabole. Il serait ainsi irresponsable de ne pas se soucier du lendemain. Ernst Bloch, lui, il lit là une certaine naïveté du christianisme sur le plan économique. Les messaliens, je répète, les messaliens ont pris appui sur ce texte pour justifier leur refus du travail. Comment interpréter cette exhortation de Jésus aujourd'hui? Est-ce une justification pour le style de vie, pour un style de vie alternatif qui reproche à la bourgeoisie de donner trop d'importance au travail et à la propriété une place indue? Nous allons voir en quoi les paroles de Jésus peuvent répondre aux soucis, causes d'anxiété pour l'homme contemporain. Le mot grec, ce mot qui traduit le souci, mérimna, écoutez bien. Ce mot grec indique que le fait de s'occuper de quelque chose implique l'inquiétude que l'on est accaparé par quelque chose. Il indique aussi une attente qui serait mêlée de crainte. Il évoque encore la peine et la souffrance. Pour les Grecs, le souci est toujours lié au tourment et à l'angoisse. Le souci est un sentiment teinté de peur. C'est à ce souci anxiogène que pense Jésus dans cette parabole. Il emploie deux images pour illustrer son propos. Celle des oiseaux qui récoltent sans semer, représentant le travail masculin. Ensuite, celle des lys des champs qui poussent absolument sans peiner et sans filet. Cela correspond au travail féminin. Si les deux manières de travailler sont bonnes en soi, l'être humain est omnubilé par ce travail au lieu d'œuvrer dans la confiance en la sollicitude divine. Il pense que tout dépend de lui seul. Finalement, c'est la peur de manquer, de ne pas avoir assez qui l'anime. Et cette angoisse fausse, totalement sans rapport au travail. Elle l'empêche de trouver du plaisir à travailler et donc d'être créatif. Le travail n'est plus alors que l'expression du souci et de l'angoisse. Il maintient l'homme dans l'inquiétude et on peut dire aussi dans l'intranquillité. On peut comprendre que l'homme s'inquiète, qu'il s'inquiète pour son avenir, car son existence en ce monde est pleine de risques. Pourtant, cette insécurité existentielle ne doit pas le conduire à l'anxiété, mais à la confiance en un Dieu qui prend soin de lui. Il se peut que Jésus ait adressé ces paroles à ses disciples parce qu'ils avaient dû abandonner leur travail pour partir prêcher, plaçant toute leur confiance uniquement en Dieu. Saint Matthieu transpose les paroles de Jésus dans la situation qui était celle de la communauté. Mais elles sont encore valables pour nous aujourd'hui. Par exemple, cet enseignement qui dit « Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. » Saint Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas donner du sens à son existence ou assumer ses responsabilités et ainsi rechercher uniquement la sécurité. La question qui se pose est de savoir déjà ce qui m'importe. Par exemple, si ma peur m'obsède, alors toute ma vie sera minée par le souci et je passerai mon temps à rechercher la sécurité. Si par contre j'oriente mon regard vers le royaume de Dieu, je relativise tout mon souci. Je peux par exemple m'assurer contre le vol sans pouvoir l'empêcher. Je peux cotiser autant que je le veux, hein? Par exemple, cotiser sans arrêt, eh bien, tout cela ne veut pas m'empêcher d'avoir une vie plus longue, impossible. Donc rien ne peut m'assurer une bonne santé et la longévité. Je suis dans la main de Dieu. N'oublions pas cela. Et l'important, c'est que le royaume de Dieu advienne, que Dieu puisse m'habiter totalement. Et dans ce cas, eh bien, je serai libéré des tourments et des idoles de ce monde. Oui, il y a des idoles. Idoles auxquelles je m'agrippe dans mon angoisse et qui n'ont de cesse que je leur appartienne. Le souci de l'anxiété trouble l'esprit. Je vais certes me préoccuper de mon avenir, mais je n'agirai pas de manière raisonnable, car l'angoisse me pousse à dépenser sans compter pour trouver toujours plus de sécurité. Jésus veut donc nous libérer du souci afin que nous puissions assumer nos charges familiales en toute sérénité. Le mieux serait donc de parvenir à se préoccuper de l'avenir sans se laisser paralyser par le souci et l'angoisse. Je dois faire ce qui est en mon pouvoir, évidemment. Et pour le reste, je m'en remets à Dieu en toute confiance. Mais si cette responsabilité me poursuit jusque dans la prière, alors je suis dans l'erreur. Je suis plus préoccupé par moi-même que par Dieu et son royaume. Je suis plus tenté de me justifier devant les autres que de m'en remettre à la justice et à la providence divine. Voyez-vous, nous pouvons interpréter les deux notions, royaume de Dieu et justice divine, d'une autre manière, par exemple, comme des images pour notre vie intérieure. Il s'agirait alors de faire en sorte que Dieu emplisse notre cœur et qu'il le rende juste. Saint Matthieu situe cette parabole concernant le souci au sein du sermon sur la montagne. En comparaison avec saint Luc, saint Matthieu intercale entre les béatitudes qui nous rapprochent de Dieu et l'exhortation à ne pas juger. Voyez le chapitre 6 où il décrit les trois formes de la piété juive, l'aumône, la prière et le jeûne. Jésus les reprend et il souligne le caractère secret qu'elles devraient avoir. Il ne faut pas, en les pratiquant, chercher uniquement à se faire remarquer des autres. Le but de la prière est de découvrir sa propre intériorité pour y être seul avec Dieu. Le jeûne n'est pas une pénitence, pas du tout. Il doit conduire à la joie et à la sérénité dans la confiance en la providence divine. Pour saint Matthieu, jeûner et prier sont indissociables. Le jeûne libère des soucis qui lui barrent l'accès à son intériorité, afin qu'il puisse prier Dieu en secret. Cet espace au plus profond de nous, ça c'est le royaume de Dieu. Si nous entrons en contact avec cet espace de sérénité, alors notre vie sera juste et en accord avec notre être le plus profond. Ainsi, nous nous redresserons et nous serons des hommes debout. Et lorsque nous accédons au royaume de Dieu en nous, nous pouvons dire « Dieu seul suffit ». Nous prenons conscience alors que nous n'avons plus besoin de nous inquiéter. Répondre aux attentes et aux exigences des autres n'est plus un objet de préoccupation puisque les autres n'ont pas accès à cet espace intérieur. La peur non plus n'y a pas place car durant ces instants, nous réalisons que nous avons tout ce qu'il nous faut pour vivre, non que nous puissions tout à coup dépenser sans compter, mais maintenant va croître en nous un espace d'absolue tranquillité et de liberté. Ce qui peut nous arriver nous importe peu, car nous savons que Dieu, en nous, il est en nous par son Saint-Esprit. Et là où Dieu, le secret, habite, nous sommes chez nous. Nous nous sentons soutenus et en sécurité, même au cœur de l'agitation. Dieu est celui qui nous libère vraiment du souci. Libérés du souci, nous trouvons véritablement la paix. Le souci est bien le plus grand ennemi de la sérénité. Il nous suffit d'observer des gens inquiets. Ils sont bien tels que les décrit saint Matthieu. Ils se préoccupent de leurs besoins matériels, craignant de manquer et de n'être pas reconnus. Ils se soucient de leurs vêtements, cherchant à correspondre au canon de la mode et de la beauté. Prestige, renommée, carrière, telles sont donc leurs préoccupations. Alors, ne pensons pas qu'il faut absolument se vêtir à la Karl, comment est-ce qu'il s'appelle déjà ? Oui, enfin, un célèbre couturier allemand. Certains ne se satisfont jamais de ce qu'ils ont. Oh non, ils se comparent constamment aux autres. Il m'est revenu le nom, Karl Lagerfeld. Alors donc, certains s'empêchent ainsi d'atteindre la sérénité. Ce n'est qu'en abandonnant nos soucis pour nous préoccuper du royaume de Dieu que nous trouverons en nous le lieu de ce royaume. C'est là que se trouve aussi la paix. C'est là qu'il y aura la sécurité et notre véritable patrie. Chers amis, dans l'évangile de saint Matthieu, un passage singulier a provoqué de nombreuses controverses exégétiques. C'est celui de l'allégresse de Jésus dans saint Matthieu chapitre 11, verset 25 jusqu'au verset 30. Après que Jean le Baptiste l'a reconnu, et Jésus a maudit les villes des bords du lac de Tibériade qui l'avaient rejeté, Jésus bénit Dieu d'avoir révélé au tout petit qu'il n'était en vérité le Fils du Père. Notez saint Matthieu chapitre 11, versets 20 à 24. Et cette louange, elle est suivie par une invitation de Jésus. Notez saint Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Car là, il est dit, selon les versions, je prends ma version allemande, mais c'est pareil chez vous. Il est dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. » Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. Après que Jésus a dit qui il est, il évoque le salut qui donnera à ceux qui viendront à lui. Il va donc donner le salut à quiconque s'approche de lui. Ce salut est représenté par une image de sérénité. Et Jésus reprend les mots de Dieu qui ont été rapportés par Jérémie au chapitre 6, verset 16. Ainsi parle Yahvé l'Éternel. Arrêtez-vous sur les routes et voyez. Renseignez-vous sur les chemins de jadis. Quelle était la voie du bien? Suivez-la et vous trouverez le repos pour vos âmes. Jésus incarne donc la sagesse divine. Il nous montre le chemin pour accéder à la véritable vie, à la joie, à la paix et à la sérénité. Il conçoit son action comme étant une offrande de paix à tous ceux qui peinent et qui s'inquiètent. Cette sérénité rappelle le repos sabbatique de Dieu. Jésus donne aux hommes accès à Dieu accès à Dieu son Père et à ce qui le caractérise, c'est-à-dire la sérénité et le repos issu de la joie d'accepter ce qui est. Jésus n'exclut personne de la paix qu'il offre gratuitement. Ses invités sont des hommes et des femmes qui se donnent du mal dans leur travail physique ou intellectuel, et qui portent des fardeaux. Par fardeau, saint Matthieu pense probablement à la loi telle que les pharisiens l'ont interprétée. L'histoire de l'exégèse révèle que le mot « fardeau » a été interprété de plusieurs manières, comme la faim, la pauvreté, la honte et l'oppression. Aujourd'hui, à la lumière de notre situation, les expressions « peinées », « porter un fardeau » évoquent ceux qui se tourmentent en vain. Ils travaillent tellement qu'ils n'existent plus que par leur travail. Ils vivent sous la pression de devoir toujours faire quelque chose jour et nuit. Peut-être est-ce leur mauvaise conscience qui les taraude, va savoir. Ou est-ce que c'est l'éducation qui leur a fait intérioriser l'injonction parentale de devoir gagner leur vie à la hauteur de leur front, et je veux dire à la sueur de leur front. Voyez-vous, derrière tout cela se cache sans doute la peur. La peur d'être accusé de paresse, de fainéant, comme c'était déjà le cas quand enfant il jouait. Tout cela est si ancré dans leur esprit qu'ils en sont sans cesse tourmentés. Certains ont peur d'être dépassés, surtout de nos jours, de n'être pas à la hauteur de ce que l'on leur demande. Ils craignent alors d'être rejetés. Ils se donnent de la peine, ressentent leur vie comme étant une plaie, et ils se plaignent, et on les comprend. Les coups du sort sont perçus comme étant une malédiction. C'est ce que nous dit l'Ancien Testament. Lorsque Adam est chassé du paradis, notez la Genèse chapitre 3, verset 17, il est dit « Maudit soit le sol à cause de toi. À force de peine, tu en tireras subsistance toute ta vie. Ce sera à la sueur de ton front. » Le fardeau que nous avons apporté de nos jours n'est pas celui de la loi, mais celui de l'éducation reçue ou celui que nous nous imposons nous-mêmes. C'est le cas de l'autopunition. Cette autopunition qui résulte du sentiment de culpabilité. C'est aussi le poids du surmoi qui nous contraint à travailler toujours plus. Cela nous interdit le repos et juge en permanence nos actes. Or, Jésus propose un chemin à ceux qui sont incapables de trouver le repos. L'Évangile emploie les mots cesser, interrompre, apporter la paix. apporter le calme, apporter un lieu de repos. Pour les Grecs, cela ne signifie pas seulement le repos d'après le travail, mais aussi le repos nécessaire à l'organisme humain, comme chez le sportif ou chez le soldat. Le repos, pour les Grecs, est sacré. C'est une bénédiction qu'on demande aux dieux. L'Ancien Testament a exactement la même perspective. L'homme pieux aspire au sabbat que Dieu lui destine. Or, l'absence de repos est une malédiction. Ainsi qu'un est voué à l'errance perpétuelle, il est dit, tu seras un errant parcourant la terre. Genèse chapitre 4, verset 12. Le comportement de beaucoup d'entre nous ressemble à celui de Caïn après sa malédiction. Nous errons, nous faisons des efforts, mais en vain, car notre travail ne donne pas de fruits. Genèse chapitre 4, verset 12. Pour Caïn, la cause de cette errance est la faute. La faute qui est le meurtre de son frère Abel. Tourmenté par la culpabilité, il ne connaît plus de repos. Et cette malédiction de l'intranquillité semble caractériser notre époque actuelle. La culpabilité refoulée qui nous pousse à fuir et nous empêche de séjourner, de trouver le repos, pourrait en être la raison. Nombreux sont ceux qui n'osent s'arrêter de crainte que la culpabilité enfouie ne surgisse. Elle leur ferait prendre conscience qu'ils ont blessé leur frère Abel, qu'ils n'ont pas entendu son cri, qu'ils l'ont abandonné à sa détresse. Philon, le fameux philosophe juif d'Alexandrie, considérait la paix comme étant la plus haute des valeurs. Pour lui, elle n'est pas inactivité, mais activité sans peine. Dieu se repose sans être fatigué. Son repos est créatif. Pour Philon, l'homme pieux comme Dieu peut trouver cette paix créatrice alors que l'homme déraisonnable demeure dans l'anxiété. Les pères grecs tels que Clément d'Alexandrie et Origène ont repris les conceptions de Philon dans leur interprétation de la Sainte Bible. Jésus conduit à la paix véritable et parfaite. Qui trouve la paix en épurant son âme ne désire plus rien d'autre que Dieu. Qui abandonne le monde à son agitation pour se retirer dans le silence et purifier son cœur, voit l'Esprit de Dieu reposer sur lui et lui transmettre la paix dans laquelle il trouvera l'énergie créatrice. Rapporté à cet arrière-plan judéo-chrétien, les paroles de Jésus résonnent de toute leur activité. nous ressemblons à l'homme déraisonnable de Philon, qui ne trouve pas le repos, faute d'avoir accès à son être véritable. Sur nous semble peser la malédiction de Caïn. Reste à savoir comment trouver la paix véritable auprès de Jésus. Changez-vous donc, plutôt écoutez, chargez-vous, a dit Jésus, de mon joug. Je répète, chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. C'est ce que nous dit Jésus dans Saint Matthieu, chapitre 11, verset 29. Pour accéder à la sérénité, nous devons en premier lieu prendre le joug de Jésus sur nos épaules. Joug de la sagesse et de la loi divine qui libère de toutes les contingences humaines. Oui, ça, c'est un baume pour l'homme. Joug léger qui, au lieu d'oppresser, conduit à la liberté. Qui entend la parole de Jésus et accède par lui au secret du Dieu miséricordieux, trouvera la paix véritable. Je répète, quiconque entend la parole de Jésus et accède par lui au secret du Dieu miséricordieux, trouve la paix véritable. Le mot joug évoque dans son sens premier la pièce qui relie l'animal à l'attelage. Se relier donc à Dieu, c'est se mettre sous son joug. Seul celui qui dans son cœur est relié à Dieu est libéré de toutes les entraves. Il est libéré du joug de l'esclavage qu'il s'impose quand il se rend dépendant de la reconnaissance des autres. Il est donc libéré du joug de la peur et de toutes les lois qui l'empêchent de vivre. Il nous faut aussi apprendre que Jésus est bienveillant, Jésus est humble, il est doux, il est aimable et non violent. Il est humble parce qu'il est descendu jusqu'au plus profond de la condition humaine. Douceur et humilité sont bien les deux attitudes qui conduisent à la paix. Jésus est humble et doux comme Moïse. Notez Nombre, le livre des Nombres, chapitre 12, verset 3. Qui apprend de Jésus cette bienveillance, cette douceur envers les autres comme envers soi-même, trouvera la paix du cœur. Qui, au contraire, est agressif et libère ses passions et ses désirs, éveille une énergie négative qui l'empêche de trouver la sérénité. Il se tient en permanence sur ses gardes pour éviter que ses passions ne le dominent et ne l'aveuglent. La bienveillance envers soi et envers les autres évite la peur de se sentir toujours attaqué et exploité. Se laisser envahir par la douceur, laisser les meules de la vie broyer dureté et rigidité conduit à la paix véritable. Cette douceur est aussi la sagesse. C'est savoir goûter au secret de la vie humaine. La sagesse, voyez-vous, c'est apprendre qu'il ne faut chercher appui que en Dieu. Dans l'Ancien Testament déjà, douceur et humilité sont souvent liées. Le mot grec tapainos veut dire bas. Le mot latin humilis, bas, près du sol. Cela vient de humus, terre, sol. L'humidité serait donc, plutôt l'humilité serait l'acceptation de notre condition terrestre. C'est ça la véritable humilité. C'est l'acceptation de notre condition terrestre. Après le courage de s'accepter comme tel, c'est cela n'est pas s'élever au-dessus, surtout pas. Il ne faut pas s'élever au-dessus de notre état de créature, car être humble, c'est avoir le courage de regarder la vérité en face. C'est abandonner la fièvre monture des idéaux, cette fièvre des idéaux, pour mettre pied à terre, afin de se réconcilier avec sa véritable humanité. Ne fuyons donc pas notre vérité, ne refusons pas de voir notre condition humaine si nous voulons trouver la sérénité. Voici ce que Jésus nous promet. Jésus dit, venez à moi, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Saint Matthieu, chapitre 11, versets 28 et 29. Pour terminer, quand les apôtres se retrouvèrent auprès de Jésus, après avoir annoncé la bonne nouvelle, eh bien Jésus leur a dit, « Venez vous-même à l'écart maintenant, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Saint Marc, chapitre 6, verset 31. Jésus procure donc le repos à ses disciples en les isolant de la foule, en leur offrant un havre de paix, en leur offrant une pause afin qu'ils puissent s'exprimer et se régénérer. Cette invitation est valable aussi pour nous aujourd'hui. Jésus nous exhorte à nous éloigner de la foule, à rejoindre un lieu isolé pour nous retrouver nous-mêmes et ne faire plus que un avec lui. Ainsi la prière est-elle un retrait et un recueillement véritable? Elle n'est pas que seulement une sorte d'isolement et de silence. Mais la prière représente aussi une réalité intérieure. Dans la prière, nous accédons à l'espace intérieur où nous sommes seuls avec Dieu, ne faisant plus que un avec lui, avec nous-mêmes, et avec la création entière. Jésus nous procure un havre de paix et nous promet la sérénité de l'âme si nous nous mettons à son école. Il faut d'abord trouver la sérénité de l'âme pour éprouver physiquement le calme. Un cœur tranquille nous permet donc d'agir en toute quiétude. Même nos mouvements exprimeront le calme intérieur, car nous aurons part au repos créateur de Dieu. Amen. Chers amis, nous allons terminer cette première étude de cette nouvelle série par la prière. Prions. Bénissons le Seigneur, prosternons-nous devant notre Dieu et notre Père. Ô comment nos cœurs resteraient-ils froids en sa présence? Comment oublierions-nous ses bienfaits, sa patience envers nous, sa miséricorde, sa charité envers les pécheurs? Comment méconnaîtrions-nous l'étendue de son amour? Seigneur, préserve-nous du malheur d'être sourds à ta voix et insensibles à tout ce que tu as fait pour nous, mais que ta grâce vienne éclairer et régénérer nos âmes. Aide-nous à te servir tous les jours de notre vie. Apprends-nous toi-même à t'aimer, à surmonter tous nos mauvais penchants. Donne-nous la force de pratiquer les vertus que tu nous recommandes. Ajoute à notre foi la science qui consiste à te connaître pour le seul vrai Dieu et Jésus-Christ pour notre unique Sauveur, à la science, la tempérance par laquelle nous résistons à nos passions et nous vivons sobrement, à la tempérance, la patience qui nous fait tout supporter et nous rend humbles et doux, à la patience, la piété par laquelle nos âmes s'élèvent à toi et vivent en toi, à la piété, l'amour fraternel qui nous fait aimer notre prochain comme nous-mêmes, et à l'amour fraternel, la charité qui est pleine de bonté et n'est point envieuse, qui ne s'aigrit point, ne soupçonne point le mal, exauce tout et espère tout. Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit, tu peux accomplir toutes ces choses en nous, si nous te prions avec confiance, ferveur et persévérance. Écoute donc notre humble prière, ô notre Dieu, ô notre Père céleste, et reçois-nous en grâce par les mérites de ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et souvenez-vous que Dieu vous aime. Et de ce fait, c'est mon devoir de vous aimer tous, et je vous embrasse de tout mon cœur, et soyez bénis, et à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Au revoir.